Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Bonsoir donc, et en ce début d'année, on va commencer l'émission par quelques vœux. C'est pas facile en ce moment de souhaiter une bonne année, on va donc se contenter de vous souhaiter de la sérénité, des moments de paix, de joie. Et vu notre émission, que la noirceur, elle reste dans les romans. Même si, le roman noir existe la plupart du temps pour refléter une réalité sociale de l'époque. Donc ça ne va pas être facile. Et le problème, c'est qu'il se porte très bien actuellement. Donc voilà, des bons moments, des bons moments partagés, et puis des bons moments de lecture aussi, bien évidemment. Nous allons commencer en cette première partie d'émission par évoquer deux romans très différents, mais qui ont retenu notre attention pour des raisons très différentes d'ailleurs. Et puis dans la deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Colin Yale pour son dernier roman qui sort, c'est merveilleux, aujourd'hui. Ça c'est... D'ailleurs, le roman dont je vais vous parler maintenant, ben, il est sorti hier. Donc, on est quand même...
Ça fait depuis deux jours, tu as beaucoup lu, quoi.
Ah oui, oui, non, mais c'est incroyable. Je me sacrifie pour Agora FM. Je vais donc commencer par vous parler d'un roman de Matthew McBride, un Américain. Ce roman s'appelle « Soleil rouge » et il est paru donc hier aux éditions Gallmeister dans la collection « Néo-Noir ». Ambiance très très différente de son premier roman, traduit chez le même éditeur.
Que l'on avait évoqué sur cette même antenne.
Voilà, c'est toi qui en avais parlé, qui s'appelait Frank Sinatra dans un mixeur. Rien que le titre vous annonçait que c'était un roman quand même assez déjanté et assez barré quand même. Hein,
oui, mais, carrément même.
Voilà. J'ai oublié de dire que c'est traduit, et très bien traduit, par Laurent Burry. Et quand je parlais de romans déjantés, ben, ici, dans celui-là, c'est plutôt les cerveaux qui sont déjantés, cramés par le crack, les méthamphétamines qu'ils fabriquent ou qu'ils consomment, et en gros, la plupart, les deux. Ce sont les habitants d'un trou du Missouri, le comté de Gasconade. Un trou, enfin, moi je pense que c'est un trou perdu. Au jeu du chat et de la souris, parfois, dans ce comté, ce sont les flics qui gagnent. Parfois, ce sont les trafiquants. Plus fréquemment, en fait, tout le monde est perdant. Pourtant, dans le lot de tous ces personnages, le flic, Dale Banks, il y croit encore. Il y croit encore à sa petite vie d'Américain moyen, son rêve. Je le cite. « Être agent de police et avoir une ferme. » Voilà les choses qui comptaient. Bien élever ses enfants, leur apprendre la vie, les aimer. Et puis, il a encore quelques illusions sur son métier. Je le recite. « Je sais que mon devoir de policier est d'éliminer les pourritures dans ton genre pour offrir une vie meilleure à mes enfants. » Ça ne va pas l'empêcher de récupérer, de manière illégale évidemment, en fait, de récupérer une somme qu'il trouve, 50 000 dollars, ça commence à faire, et cette somme, il découvre dans la caravane de la pourriture en question, qui est un trafiquant notoire. Son nom au trafiquant, c'est Jerry Dean Skaggs. Lui, évidemment dealer, il voudra évidemment récupérer coûte que coûte son fric, évidemment, qui ne lui appartient pas et qui appartient à des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup plus méchants que lui. Surtout, un certain révérend, un homme étrange, un homme faux prophète, vrai illuminé, vraie pourriture cruelle, en parlant de pourriture, qui traite en gros ses chiens mieux que ses femmes. Oui, parce que dans sa religion, évidemment, on est polygame, ça arrange bien. La course-poursuite s'annonce entre eux, donc... Les flics, le dealer, Skaggs.
18h15.
Skaggs. Comment ?
Tu m'as dit dealer, 18h15.
Ah pardon, excuse-moi. Là, j'avoue avoir été un petit peu perturbée. Je disais donc, la course-poursuite s'engage et on va avoir de multiples péripéties, soit des côtés des flics, soit des côtés des truands et beaucoup, beaucoup d'hémoglobine. Ce qui est intéressant dans ce roman, ce qui me semble intéressant, c'est... Le mythe de la frontière. Alors oui, je sais, c'est souvent au centre des romans noirs américains. Celui-ci ne fait pas exception à la règle, mais la frontière, elle est plus entre deux époques, deux civilisations presque. Les vieux, qui pouvaient encore s'en sortir en cultivant la terre. C'était des pauvres, c'était des damnés de la terre, mais ils arrivaient à peu près à s'en sortir dans les plaines du Missouri. Les plus jeunes, dont la seule issue semble les trafics, la drogue, la violence surtout envers les femmes. Une génération perdue. Et donc, toutes les autres, forcément. L'écrivain américain laisse bien peu de lueur d'espoir. Quoique, si certains tombent sous les coups, sous les balles, à cause de la meth, d'autres pourront peut-être, peut-être, un jour se relever. Ici, les personnages principaux sont complexes, comme dans tout bon roman noir. Pas de salaud intégral, pas d'ange non plus, à part quelques anges exterminateurs, comme le révérend par exemple. Mais intéressant aussi la galerie de personnages secondaires, attachants, en particulier un pour moi, le vieux Olen, qui donne des lumières ou des ombres différentes et qui nuance les teintes quand elles sont un petit peu trop nettes. Dans Soleil Rouge, je l'ai dit déjà au début, on n'a pas de gagnants, on n'a que des perdants. Simplement, parmi tous ceux qu'on va rencontrer, certains arriveront à conserver la vie. Et dans ce coin du Missouri, c'est déjà pas si mal. Voilà, donc je rappelle le titre, Soleil Rouge, Matthew McBride, traduit par Laurent Burry. Et puisque l'on évoque les éditions Gallmeister, j'aimerais signaler la réédition en poche, alors je sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, mais c'est toujours brûlant d'actualité, dans la collection Totem, hein, c'est la collection poche des éditions Gallmeister, le magnifique roman qui s'appelle Pike, du romancier américain Benjamin Whitmer. Pour moi, cet auteur, c'est une des plus belles découvertes de ces dernières années, et si vous ne le connaissez pas encore, il faut plonger dans cette histoire très noir, qui fait se confronter un homme vieillissant et une gamine de 12 ans. La petite fille, qu'il n'a jamais connue, sa fille vient de décéder, encore une histoire de drogue, et il doit s'occuper de sa petite fille. Et il va devoir la protéger d'une pourriture intégrale. Décidément, les pourritures, il y en a pas mal dans ces romans. Et heureusement, dans ce roman, les réflexes de truand qu'il fut ne sont pas trop émoussés. Une histoire qui paraît peut-être assez convenue, mais qui est servie par une écriture splendide. Alors, si on parle des éditions Gallmeister, on pourrait aussi parler de la réédition de Faye, d'un grand romancier américain, Larry Brown. Traduction revue par Françoise Merle. Mais je crois que ce roman mérite une chronique pour lui tout seul. Et donc, je pense qu'en février, ou peut-être fin janvier, on vous en reparlera.
Très probablement, parce que voilà. C'est quand même, c'est vraiment...
Ça, c'est, voilà,
super
roman mythique.
Exactement.
On va peut-être continuer par un petit peu de musique.
Un petit peu de musique, donc, disons un peu des punks. Donc, ça peut bien aller avec les personnages...
Des punks au bord.
Voilà, des personnages de Soleil Rouge. Mais là, ce sont des Canadiens. En fait, ils font plutôt du Scottish punk. Donc, ben, vous allez voir pourquoi tout de suite. Il y a un bagpipe. Et donc, ce sont les Real Mackenzies. Et le morceau s'appelle Why Knuckle Bride.
Feeling alive when I get out in time. So fast, so when I leave, it's time.
Voilà, quand même un morceau excellemment bien choisi, puisque je rappelle que le roman dont je viens de parler est de Matthew McBride, et donc du punk scottish-écossais, ça va très bien.
Voilà, par des Canadiens.
Voilà, bon, moi c'est un Américain, donc
oui,
voilà.
Le Missouri, c'est pas si loin que ça, de Vancouver. Hein.
Oui, enfin bon, en avion. Je te laisse la parole.
Et ben alors là, on parlait tout à l'heure qu'on était à la pointe de l'actualité dans Onde Noire. Et ben là, nous allons vous parler d'un roman qui est paru en 1948 et au Japon. Et oui, c'est la pointe de l'actualité. Mais il faut dire que ce roman n'a été traduit que l'an dernier, enfin donc en fin 2016, et il est paru chez De Noël. Ce roman s'appelle Iruzemi. C'est de Akimitsu Takagi.
Bravo.
Ben, j'ai répété.
Bravo. Bah ouais, non, bravo.
Il est traduit du japonais donc par Mathilde Tamae Bouron. Là, par contre, je suis même pas sûr. Et donc, il est paru dans la collection Sueur froide de chez De Noël. Pour ceux qui ne le savent pas déjà, je le savais pas d'ailleurs moi-même avant de lire ce livre, l'Iruzemi, c'est un tatouage intégral ou du moins une très grande partie du corps chez un homme ou chez une femme.
Enfin, tout au moins au Japon.
Généralement au Japon, oui, oui.
Oui.
C'est en fait une œuvre d'art, une œuvre, enfin c'est donc de la fierté, mais c'est aussi un peu un signe d'infamie car c'est beaucoup associé aux yakuza, ou alors aux femmes de mauvaise vie comme on dit dans les romans d'avant. Mais ces Iruzemi sont aussi l'objet de véritables cultes, de vénération, voire même d'assez macabres collections de peaux tatouées. Si vous voulez savoir, d'ailleurs, si vous allez dans votre librairie, vous demandez Iruzemi, vous voyez très bien sur la pochette, il y a une très jolie dame de dos qui en a un sur son dos. Alors, bon, ce roman se passe dans la Tokyo d'après-guerre, puisqu'il est paru en 1948, le roman. Et on retrouve, au début, le cadavre démembré et étêté d'une jeune femme portant l'un de ses magnifiques tatouages. Le milieu des Iruzemis, je ne suis pas sûr que le mot existe vraiment, est complètement chamboulé. Surtout le jeune Kenzo Matsuchita, qui pensait se rendre à un rendez-vous galant avec cette jeune femme, et qui en découvre les restes du corps, donc, puisqu'il manque la tête, dans la salle de bain, laquelle est fermée de l'intérieur.
Un meurtre en chambre close.
Voilà. Deux questions se posent alors au policier chargé de l'enquête, qui se trouve être aussi le frère aîné de Kenzo. Qui a pu tuer la femme et surtout qu'est-il advenu de la tête? Avec un léger
de bonnes questions pour des inspecteurs.
Voilà, avec un léger corollaire, comment le meurtrier sorti de la pièce aussi close qu'humide, verrouillé de l'intérieur sans laisser la moindre trace?
J'ai bien une réponse, mais ça va pas te plaire.
Voilà. L'inspecteur chef Matsushita recevra l'aide d'un certain Kiyosuke Kamisu, qui est un jeune médecin légiste aux capacités d'observation et de déduction fameuses, et qui démontrera, point par point, que ce faux crime parfait. L'enquête les mènera des bas-fonds de la capitale nippone aux très doctes bureaux et laboratoires d'universitaires. Un meurtre en chambre close, en salle de bain close d'ailleurs ici, assez brillante mais classique résolution d'énigmes, avec les quelques facilités que s'autorisent les auteurs européens ou américains de ce genre. Le frère de celui qui a découvert le corps est aussi le flic qui va mener l'enquête. L'efficient légiste est son meilleur ami. Quelques indices apparaissent de façon, disons, bien opportune. Mais l'intérêt n'est pas vraiment dans la découverte du qui, du comment, du pourquoi, mais bel et bien dans la description du Tokyo de 1947. Les poussières d'Hiroshima et de Nagasaki ne sont pas encore complètement retombées.
Elles le sont toujours pas.
Elles le sont toujours pas. Et la défaite est encore dans les têtes et dans les esprits. On apprend du coup pas mal de choses sur le mode de vie nippon, dont il faut bien dire qu'on ne connaît pas vraiment grand-chose de ce côté-ci, enfin en Europe. Par exemple, la superbe et encore vivante à l'époque Kinue, se déshabille d'ailleurs un paravent de soie. Bon, ça, on l'a un peu vu dans Tintin. Mais par exemple aussi, il donne les mesures des pièces en tatami. La chambre fait par exemple 2 tatamis de large sur 3 de long. Ou le salon, 4 tatamis de long sur 3 de large. C'est un peu surprenant. Après, on ne sait pas comment c'est pas ce qu'on fait un tatami. On n'a pas vraiment une idée de la taille de la pièce, mais bon.
C'est qu'à faire un sport martial.
Exactement. On découvre aussi, surtout, le monde des tatoueurs et des tatoués. Et de leur fétichisme de l'époque. C'est assez fascinant pour le lecteur occidental même si la pratique du tatouage est de plus en plus répandue dans notre monde européen. Mais à l'époque, dans ces temps-ci, disons, là-bas, en 47 au Japon, elle comportait de nombreuses implications, aussi bien philosophiques que sexuelles, dont on ignore, disons, un peu moins après cette lecture. Pour revenir au côté purement policier, l'auteur a de très bonnes connaissances de cette littérature et de ses maîtres du fin 19e, début du 20e, et son roman fourmille d'allusions à ceci. Le maître légiste génial et un peu pompeux, c'est à la fois Watson et Holmes. L'un des indices importants est caché, à peine caché, au vu et au su de tout le monde, telle la lettre volée d'Edgar Allan Poe. Un petit extrait. Avec un rire, Kenzo désigna le cadre accroché à la poutre du plafond. Il abritait une maxime en 4 caractères, calligraphiée avec art par l'ancien ministre de l'Intérieur. La vérité se trouve devant tes yeux. Et ouais, c'est dans le tableau, et c'est aussi là qu'il va trouver l'indice principal. Il y a aussi un peu de Rouletabille dans le jeune Kenzo, amoureux, bien qu'il soit légèrement plus candide que son homologue français. Et à la lecture de la scène d'explication finale, le lecteur voit très probablement un petit peu d'Hercule Poirot dans le coin de la tête. Ce roman, donc, qui est paru juste après la guerre, en fait, c'est un auteur culte, Akimitsu Takagi.
Ah, tu l'as dit mieux la première fois.
J'ai bien dit la première fois. En fait, il écrit près d'une vingtaine de romans avec pour enquêteur, donc, le légiste Kamisu. Mais nous, il aura fallu près de 60 ans pour le découvrir en français. Espérons peut-être qu'on pourra en lire d'autres.
Je pense que s'il a un certain succès, d'autres épisodes.
Là, c'est le premier, c'est son plus fameux, mais...
Voilà, donc je vais m'y lancer, allez, je vais le dire, Akimitsu Takagi pour un roman Irezumi, chez les éditions de Noël, collection Sueur Froide. On se retrouve dans quelques minutes.